Merci de vous joindre à nous. Vous êtes bien sur Radio Orient. Il est midi. Le point de l'actualité avec vous, Marc-Aurel Barrez. Au sommaire de cette édition, aux États-Unis, Donald Trump a prononcé hier son discours sur l'état de l'Union devant le Congrès. Il a longuement célébré son bilan sans manifester le moindre changement de cap. Le président a accusé l'Iran de produire des missiles pour atteindre les États-Unis. 129, c'est le nombre de membres de la presse tués dans le monde en 2025, selon le Comité pour la protection des journalistes. L'armée israélienne est responsable de 2/3 des décès. Notre dossier du jour, près du quart des étudiants vivent avec moins de 100 euros une fois leur loyer payé, une précarité qui inquiète le syndicat étudiant LAFAGE. Bonjour, nous le disions dans les titres, Donald Trump a accusé hier mardi l'Iran de produire des armes capables de frapper les États-Unis. Dans son discours sur l'état de l'Union devant le Congrès américain, il a ajouté qu'il ne laisserait jamais Téhéran se doter de l'arme nucléaire. Le président a assuré privilégier la voie diplomatique. Triste bilan, en 2025, 129 journalistes ont été tués dans le monde selon le Comité pour la protection des journalistes. Près de 86 morts ont eu lieu dans la bande de Gaza, soit le 2/3 du total. L'ONG américaine souligne donc que l'armée israélienne a désormais commis davantage d'assassinats ciblés de membres de la presse que n'importe quelle autre armée gouvernementale. Dans un communiqué, l'UNRWA, l'agence onusienne pour les réfugiés palestiniens, réaffirme que la protection des civils dans la bande de Gaza est une priorité. Elle appelle à la mise en place d'un environnement sécurisé dans l'enclave pour assurer un accès durable à l'aide humanitaire. L'organisation explique poursuivre ses opérations à Gaza malgré des difficultés considérables. Au Caire, maintenant, une réunion préparatoire de soutien à l'armée libanaise et aux forces de sécurité intérieure s'est tenu hier avant la conférence du 5 mars à Paris. Le général Rodolphe Aïkal y a présenté les besoins de l'armée. L'Union européenne pourrait verser 100 millions de dollars. 4 ans après l'invasion russe, le président ukrainien Volodymyr Zelensky s'est félicité hier. Il a dit que Vladimir Poutine n'avait pas atteint ses objectifs et n'avait pas brisé les Ukrainiens. De son côté, la Russie menace de continuer les hostilités. Le premier ministre indien Narendra Modi doit arriver en Israël aujourd'hui. 2 jours de visite et un programme, renforcer les liens en matière de commerce et de défense. En France maintenant, l'Assemblée nationale vote aujourd'hui sur la création d'un droit à l'aide à mourir. La réforme débattu depuis plusieurs années conserve plusieurs points de friction. La France est l'un des derniers pays européens à légiférer sur la question. La présidente du Louvre contrainte à la démission. Laurence Descartes a remis hier mardi sa lettre au président de la République. C'est Christophe Leribaud, l'ancien président du château de Versailles, qui prend la tête du musée le plus visité au monde. C'est la fin de ce point de l'actualité. Merci de votre écoute. On se retrouve tout de suite pour le dossier du jour. Vous êtes bien à l'écoute de Radio Orient. Place à présent au dossier du jour. Regard sur la précarité des étudiants. Près d'un quart d'entre eux vivent avec moins de 100 euros par mois, selon une fois leur loyer réglé. C'est ce qu'indique une enquête menée par le syndicat étudiant LAFAGE. On voit ça avec François-Xavier de Calonne.
Et oui, et cette précarité a un impact direct sur leur santé, aussi sur leur réussite académique. C'est ce que souligne le syndicat étudiant. L'enquête de LAFAGE indique que le loyer atteint en moyenne 491 euros. Il est plus élevé à Paris, 712 euros. Et c'est en moyenne la moitié de leur budget des logements trop chers, mais aussi non adaptés aux réalités étudiantes, selon la présidente du syndicat. Alors, que reste-t-il une fois le loyer réglé? Eh bien, 22,3% des étudiants déclarent vivre avec moins de 100 euros par mois. 52,2% avec moins de 200 euros. Et parmi les boursiers, eh bien, 61% se trouvent dans cette situation et ce taux alarmant, 5% démarre le mois à zéro ou même déjà à découvert. Résultat, les économies sont notamment faites sur l'alimentation et donc sur la santé des étudiants. 1/2 travaillent en parallèle de leurs études. Conséquence, santé physique et mentale dégradée et qualité des études remise en cause. Hein, le cri d'alarme de Suzanne Ninjam, la présidente de LAFAGE. LAFAGE qui demande des mesures concrètes, une augmentation de l'offre de logements sociaux étudiants, une régulation plus élevée du parc privé, notamment via l'encadrement des loyers. Le syndicat demande également une réforme du calcul des bourses. Il souhaite aussi que l'accompagnement social soit renforcé. Des éléments qui peuvent avoir un impact direct sur la vie actuelle, mais aussi sur l'avenir des étudiants.
Merci François-Xavier. Cela faisait hier 4 ans après le début de la guerre en Ukraine. Un député français a interpellé le gouvernement pour exiger des sanctions nationales plus fortes contre la Russie. On écoute le député Lio des Yvelines, membre de la commission de l'Europe et des Affaires étrangères, Laurent Mazzori, au micro de François-Xavier de Calonne.
L'action de la diplomatie française, 4 ans après le démarrage de cette guerre, elle est quand même assez exemplaire et la France n'a pas à rougir de ce qu'elle a fait aujourd'hui pour essayer de parvenir à l'arrêt de l'agression russe contre l'Ukraine, hein, parce que je ne veux pas qu'on oublie que c'est bien une agression de la Russie sur l'Ukraine et certainement pas une simple guerre. Elle n'a pas à rougir parce qu'elle a su également mobiliser un certain nombre d'acteurs qui ont apporté un soutien très important à l'Ukraine au niveau des pays européens, mais pas que. Néanmoins, on doit marquer encore une étape, on doit aller plus loin, puisque malheureusement aujourd'hui c'est un triste anniversaire, 4 ans de guerre, 4 ans de plus, aujourd'hui un peu plus d'1 million de morts, parfois 4 000 morts par jour, plus de 40 000 morts, voire 60 000 morts par an, sans compter les civils. Et là je parle de part et d'autre, parce que n'oublions pas aussi que nous avons des Russes qui sont contraints d'aller se battre, nous avons des pays étrangers qui sont contraints par la Russie d'aller se battre, nous avons aujourd'hui des personnes qui sont payées pour aller se battre en Russie, et nous avons les populations civiles et militaires ukrainiennes qui sont assassinées quotidiennement, et je ne parle pas de la déportation des enfants, etc., tout ce qui s'est passé.
Et vous rappelez un des entretiens entre Emmanuel Macron et Vladimir Poutine au début de cette guerre, mais Macron qui était reçu par le président russe, qui pouvait s'entretenir avec lui. Aujourd'hui, il n'y a plus de dialogue direct entre les deux. Depuis, Donald Trump a été élu pour un deuxième mandat, après le mandat de Joe Biden. Où la France a péché?
Je pense que d'abord, la France n'a pas péché à essayer jusqu'au dernier moment d'empêcher cette guerre, de l'arrêter, d'empêcher qu'elle perdure. Ça, je pense qu'il fallait le faire parce que, vous savez, le propre de la diplomatie, c'est justement de maintenir le dialogue et maintenir parfois le dialogue avec les pires personnages parce qu'il vaut mieux toujours parler que de tout rompre. L'histoire du monde nous l'a toujours prouvé. Il faut garder toujours une ligne ouverte. Hein. Au plus fort temps de la guerre froide, il y avait une ligne ouverte entre le président américain et le président russe et ça a permis d'éviter le pire. Si on prend le cas de la crise des missiles de Cuba, nous ne serions ni vous ni moi là s'il n'y avait pas eu à un moment donné une intervention des politiques, au-delà d'ailleurs de l'intervention des militaires, hein, parce que sinon nous serions tous absolument morts et nous aurions été écrasés par le feu nucléaire. Néanmoins, je pense qu'aujourd'hui, il faut franchir une étape, il faut aller plus loin, il faut tout faire pour que cette guerre s'arrête dans les conditions que l'Ukraine fixera et pas dans les conditions qu'un tiers pourrait fixer. Je pense là, évidemment, au président américain qui, lui, poursuit des objectifs qui ne sont pas les nôtres. Il a une vision mercantile des choses, ce n'est pas les nôtres. Nous sommes pour le respect du droit international, le respect des frontières et l'autodétermination des peuples. C'est le cas du peuple ukrainien. Il a le droit à recouvrer ses frontières aujourd'hui devenues ses frontières historiques.
C'était le député Lyot des Yvelines, Laurent Mazzori, au micro de François-Xavier de Calonne. C'est la fin de cette édition. Merci à Raymond Jouan pour la réalisation. Excellente suite de programme sur Radio Orient.